Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique.
Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors, bonjour Lise Galuga.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien toi aussi?
Très bien.
Ça me fait plaisir de te rencontrer. On est présentement à Ulide à Banff et je sais que tu es très impliqué sur Twitter dans différentes aussi activités, formation pour les enseignants, développement professionnel. Fait que je voulais qu'un peu tu nous parles d'où tu viens, de ton background. Puis après ça, on parlera de certaines petites choses qui sont propres à toi puis des dossiers que tu as menés.
Super. Fait que moi, je suis enseignante au secondaire. Origine, puis à l'université, j'ai fait mon degré en génie. Fait que j'ai toujours été passionnée par les sciences, les mathématiques et la technologie. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime prendre des objets, les détruire, puis voir comment ils ont été construits. Fait que c'est une de mes passions. Fait que je me suis lancée en éducation dans ce domaine-là. J'ai enseigné pendant 12 ans, puis j'ai fait ensuite conseillère pédagogique en mathématiques, en technologie, puis là, je travaille au sein d'une équipe très particulière au Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, de conseillères pédagogiques qui travaillent justement en intégration des technologies du point de vue pédagogique en salle de classe.
OK. Donc, c'est ce qu'on appelle communément dans le jargon le CFORP.
Oui.
Donc, c'est quoi exactement le CFORP, puis quelle est la nature de ta tâche là-dedans?
Donc, le CFORP, c'est une maison d'édition. Et c'est une maison d'édition qui se veut un centre d'innovation pédagogique. Et ils font la création de ressources, ils font la numérisation de ressources et ils travaillent aussi en développement de différents contextes de formation à distance. Donc, ils ont toutes sortes de nombreuses plateformes et de nombreuses expertises qui permettent aux écoles d'évoluer, justement.
Les écoles francophones.
Les écoles francophones d'évoluer. Oui, on a fait du travail quand même au CFORP en lien avec des contrats pour les écoles anglophones aussi. Mais leur gros mandat, c'est de travailler pour l'éducation en langue française.
OK. J'ai appris à travers les branches que vous avez comme une espèce d'équipe qui a été montée, une équipe de conseillers qui se promène un peu partout en Ontario.
Donc, justement, on a l'équipe tactique, que ça s'appelle. Et tactique, c'est pour ton accompagnement continu en technologie, information, communication. Donc, l'idée, c'est d'accompagner des équipes pédagogiques des conseils scolaires. Le modèle d'origine, c'est que chaque conseil scolaire a leurs experts en technopédagogie et ils peuvent ensuite les mettre en genre de conseiller pédagogique au sein de leur conseil pour nourrir leurs écoles. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en Ontario français, nous n'avons que 12 conseils scolaires de langue française. Et donc, en rapatriant chacun des conseillers pédagogiques en technopédagogie, d'être capable de les remettre au sein d'une même équipe, ça nous a permis de permettre à chacun des 12 conseils scolaires de bénéficier de l'expertise de l'équipe au complet. Donc, nous siégeons ensemble, en équipe, et on peut accompagner chacun des 12 conseils scolaires. Ça nous permet chacun d'évoluer dans nos propres domaines d'expertise et pour mieux répondre aux besoins de la province au complet.
OK. Fait que vous êtes comme une espèce d'équipe volante. Bref, vous êtes comment ça fonctionne? Moi, je suis directeur de telle école. J'appelle le CFORP, puis vous autres, vous débarquez dans l'école une semaine plus tard, deux semaines plus tard, un mois plus tard.
Donc, c'est un service qu'on cherche à intégrer pour l'année prochaine, justement un service plus sur mesure où une école pourrait faire appel au service de l'équipe pédagogique tactique. Mais ce qu'on cherche cette année, c'est plutôt un partenariat avec les conseils scolaires qui ont prêté leur conseiller pédagogique en technopédagogie. Fait que ce qu'on fait, c'est que chaque conseil scolaire va identifier un nombre d'écoles qu'ils veulent qu'on accompagne. Et puis, on peut venir intervenir au sein de l'école comme on peut venir intervenir au sein du conseil scolaire.
OK. Puis comment ça se passe quand vous arrivez dans une école?
Donc, c'est un processus d'accompagnement. On cherche plus à accompagner les équipes pédagogiques que de venir juste faire de la formation sur mesure. Et on rencontre l'équipe, on révise le plan d'amélioration de l'école et on identifie de quelle façon la technologie, puis la technologie utilisée en pédagogie pourrait venir appuyer les éléments qui sont dans le plan d'amélioration de l'école.
OK. Puis Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Parce que là, je pense qu'il y a des ressources financières qui sont impliquées dans ça. Parce que vous, tu me disais tantôt, vous étiez une vingtaine à peu près à vous promener dans votre équipe. Puis c'est, cette vingtaine de personnes-là, bien, vous êtes payées. Vous êtes payées par le CFORP, mais...
Donc, notre salaire vient encore de notre conseil scolaire d'origine. Okay. Et on est vraiment juste en prêt de service auprès de cette équipe provinciale. C'est certain que le ministère a associé un budget au projet de l'équipe tactique pour permettre les déplacements et les formations, la formation de l'équipe comme telle.
Mais pourquoi est-ce que ça, c'est important d'avoir un service comme ça? Parce qu'au Québec, ça n'existe pas. Puis même, je doute que ça existe dans d'autres provinces. Là. C'est quand même assez innovateur comme, comme principe. C'est très important parce que les recherches universitaires démontrent que la meilleure façon de faire changer des enseignants, c'est de leur permettre d'avoir une relation de mentorat, d'un certain sens, d'avoir accès à quelqu'un d'autre qui peut les aider sur une base régulière. Donc, c'est un petit peu ce que je sais que tu disais, que vous animiez des ressources, des équipes de travail, mais à l'intérieur de ces équipes-là, vous avez quand même des personnes. Donc, ça poursuit ce but-là, mais pourquoi, comment vous avez fait pour convaincre, admettons, les conseils scolaires de vous libérer ou le ministère de vous donner des sous, et, etc.?
Donc, c'est certain que ce n'est pas nous qui sommes allés convaincre le ministère. C'est le ministère qui a regardé qu'au départ, on avait de nombreuses équipes qui travaillaient dans la même veine. Donc, on avait une équipe à Destination Réussite qui travaillait justement pour mousser l'utilisation pédagogique des technologies en salle de classe. On avait une équipe au CAV LFO qui travaillait pour utiliser la plateforme provinciale en apprentissage hybride. Puis on avait une équipe au FOR, donc en accompagnement des initiatives ministérielles. Puis on s'est dit, on travaille tous de notre côté, puis on offre un service qui devient de plus en plus redondant quand chacun de nos services rejoint l'utilisation de la technologie en salle de classe. Et donc, on a regroupé ce personnel-là suite à un nouveau processus d'embauche pour être capable de former l'équipe tactique.
Donc, on abolit des silos, d'un certain sens. Justement. Au lieu de tout le monde faire la même chose, chacun de leur bord, bien là, on met toutes ces expertises-là ensemble.
C'est ça. Puis les conseils scolaires, au lieu d'avoir à appeler FAR et appeler CAV, LFO, appeler Destination Réussite, puis que chacun avait un différent mandat, puis on ne travaillait pas nécessairement toujours ensemble de concert. Fait que là, en étant une seule et même équipe, les conseils scolaires appellent à une place pour être capable d'obtenir leur appui. Et puis nous, ensuite, on peut s'enrichir des expertises des différents membres de l'équipe.
OK. À part ça, je sais que tu es une fille très active, tu as d'autres dossiers, tu as d'autres projets. Je te suis sur Twitter. C'est la première fois qu'on se rend... Bien, pas maintenant, mais je veux dire, depuis qu'on est à Banff, c'est la première fois qu'on se rencontre, même si on s'est suivi parallèlement. Mais quels sont les autres dossiers sur lesquels tu travailles ou dans quoi tu es engagée?
Donc, au sein de l'équipe tactique, je porte le dossier robotique, programmation, coding, movement maker au nom de la province. Donc, c'est mon dossier chaud de l'heure et c'est un dossier que j'ai à cœur depuis que je suis toute petite. Parce que chez nous, si vous rentrez chez nous, là, c'est, ça ressemble pas mal à ça, un espace maker. Là. Donc, c'est un dossier que j'ai beaucoup aimé et puis que j'essaie de voir de quelle façon on peut mousser l'intérêt pour ces différentes utilisations en pédagogie pour être capable de développer ce qu'on appelle en anglais « computational thinking » auprès de nos élèves. Donc, l'idée de la pensée critique, mais intégrée aussi à l'utilisation des technologies.
OK. Puis, tu parles de l'approche maker. Tu parles d'un makerspace. C'est quoi un makerspace?
Donc, essentiellement, un makerspace au sein d'une communauté, c'est un endroit où on a un équipement qui est disponible et puis où les gens peuvent s'abonner et venir travailler un projet, que ce soit avec des outils qu'ils n'ont pas nécessairement chez eux ou juste l'esprit de collaboration en équipe pour être capable de travailler des projets dans ce genre-là. Donc, c'est né du mouvement DIY, donc « do it yourself », là, où les gens viennent et puis ils travaillent dans ce dossier-là. Alors, au sein de la communauté en éducation, on voit que de plus en plus, c'est intéressant d'intégrer des espaces makers à l'intérieur de nos nouveaux centres de ressources qui sont essentiellement la bibliothèque, mais renouvelée. Donc, on voit qu'un air où on offre un matériel, une expertise, puis un nombre limité ou non d'outils à la disposition de nos élèves peut leur permettre de mettre en œuvre le processus qui aboutit à la fin de leur processus de design thinking, essentiellement.
OK. Fait que sur le terrain, qu'est-ce que tu observes d'élèves qui sont impliqués ou qui sont dans un makerspace? Et puis aussi, comment les enseignants achètent ce modèle-là d'un certain sens? Là? C'est un drôle de mot acheter, mais... quand le makerspace débarque dans une école, les enseignants, il faut qu'ils s'en servent, il faut qu'ils l'utilisent, il faut qu'ils l'intègrent. Donc, un, comment les élèves réagissent, et puis deux, comment les enseignants réagissent.
Donc, ça dépend de quelle façon le makerspace est utilisé au sein de l'école. Si c'en est un qui est vraiment un espace un peu comme un laboratoire où les enseignants peuvent venir et venir, disons, réserver le laboratoire pour être capable de s'en servir puis intégrer ça à leur pédagogie, ils peuvent prendre des activités de pensée critique puis des défis critiques pour nos élèves où ils peuvent vraiment venir se lancer et puis faire le processus itératif de design, de prototype et puis ensuite de testing de leur idée. Donc, je pense que ça, c'est gagnant à tout niveau, peu importe le domaine d'études dans lequel tu te trouves. Il y a d'autres philosophies qui sont vraiment d'avoir juste un espace maker disponible dans un lieu central où les élèves eux-mêmes peuvent venir travailler des projets, suivre leur passion, essayer des nouvelles choses, encore suivre le même processus itératif de design, mais pas nécessairement toujours en contexte avec un projet pédagogique lié à une évaluation dans un cours.
Est-ce que tu peux terminer peut-être en nous parlant de, je sais que tu es très impliqué aussi avec Google.
Oui, donc je travaille un peu deux emplois qui sont complémentaires. Donc, en fin de semaine, je travaille souvent avec une compagnie qui s'appelle EdTech Team pour offrir des formations en technopédagogie. Je voyage un peu avec cette équipe-là. Ce que je trouve le plus gagnant, c'est de partager mon expertise puis d'avoir l'occasion d'aller rencontrer des enseignants d'un peu partout dans le monde. Et puis de voir des nouveaux concepts. Ce que je trouve qui est très pertinent, d'être capable d'intégrer des nouvelles idées puis des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire. C'est d'ailleurs la première fois que j'avais vu des espaces makers, c'était quand je visitais les écoles dans lesquelles je présentais. Et donc, c'est en faisant des liens avec les enseignants que j'ai développé un modèle que je peux proposer maintenant en Ontario.
Merci de ton temps. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer.
Et oui, absolument. Merci.